Chapitre 22. Le premier témoin que l'huissier amena à la barre déclara être maître d'hôtel Garni, rue Rossini, à Paris. « Vous avez eu l'accusé pour locataire ?» demanda le président. « Oui, monsieur le président, il y a 10 ans. »«
Pendant combien de temps ?»«
6 mois environ. »«
Pourquoi a-t-il quitté votre maison ?»«
Il n'a pas quitté ma maison. »
Veuillez vous expliquer d'une façon intelligible pour messieurs les jurés.
C'est-à-dire qu'il a cessé d'occuper sa chambre, mais il venait tous les jours chercher ses lettres, qu'il continuait à se faire adresser chez moi.
Il n'avait donc pas d'autre domicile?
Je ne sais pas.
Accusé, avez-vous eu un autre logement en quittant la maison du témoin?
Évidemment.
Alors pourquoi n'y receviez-vous pas votre correspondance?
Parce que je ne voulais pas que tout le monde sût mon adresse.
Pourquoi ?
Pour ne pas être ennuyé.
Le président revint au témoin.
Pendant combien de temps l'accusé s'est-il fait adresser ses lettres chez vous ?
6 ou 7 ans.
Ainsi, continua le président en parlant à la Vaupalière, pendant plus de 6 ans, vous n'avez pas eu de domicile avouable.
À 18 ans, en quittant le lycée de cette ville où vous avez fait vos classes, vous allez à Paris pour y étudier le droit. Au lieu de vous loger au quartier latin comme tous les étudiants sérieux, vous allez habiter la rue Rossini, c'est-à-dire un quartier où l'on mène plutôt la vie de plaisir que celle du travail. Puis, après 6 mois, vous quittez ce modeste logement.
Pour aller où ?
Tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre.
Précisez.
C'est bien difficile, après un si long temps écoulé, et d'ailleurs, cela est de peu d'importance, il me semble.
Au contraire, interrompit l'avocat général, cela est d'une importance décisive et nous le prouverons.
Cela fut jeté avec le plus bel accent méridional en faisant rouler les airs et sonner les désinences comme si chacune d'elles était un pétard. Ce qui amena un sourire d'autant plus facilement communicatif sur ces visages normands, quand ces derniers temps, M. Corbassière avait publié une brochure, moitié sérieuse, moitié plaisante, à l'usage des orateurs, des chanteurs, des professeurs, des avocats, des ecclésiastiques, sur la nécessité de corriger la prononciation parisienne en la rapprochant de celle du Midi.
Je dois vous prévenir, dit le président d'un ton presque bienveillant, que votre refus de répondre d'une façon précise à la question que je viens de vous poser peut amener des interprétations qui vous seront défavorables et qu'on pourra en conclure que, si vous ne voulez pas dire où vous avez habité pendant plus de 6 ans, c'est que vous demeuriez chez des femmes aux dépens desquelles vous viviez.
Si j'avais vécu aux dépens des femmes, je n'aurais pas dépensé l'héritage qui me venait de ma mère.
La prodigalité n'exclut pas la prêter au gain, et c'est pour subvenir à des dépenses exagérées qu'on cherche à se procurer des ressources n'importe comment. L'accusation soutiendra qu'à partir de votre 21e année, quand l'héritage de votre mère a été dissipé, exploitant votre jolie figure et vos manières séduisantes, vous avez vécu de vos maîtresses et que vous avez contacté des habitudes qui, continuées à Oissel, vous ont amené sur ce banc.
L'accusation devra le prouver. Si j'ai demeuré avec des maîtresses, le loyer était en mon nom.
Cela ne signifie pas nécessairement, dit le président avec bonhomie, que c'était vous qui le payiez. À la vérité, ce sont là des mœurs plus parisiennes que provinciales, mais c'est là un des côtés caractéristiques de cette affaire, que si le crime a été commis en Normandie, ceux qu'on en croit coupables sont dans une certaine mesure des produits parisiens. L'un par sa vie de jeunesse au milieu d'un monde interlope, l'autre par son lieu de naissance et sa première éducation dans une boutique de modiste.
Les journalistes parisiens se regardèrent avec un mouvement de surprise.
Comment il est resté si provincial que ça, le président des nouvelles couches ?
Mais ceux qui pensèrent à examiner les jurés purent voir que cette observation, qui au premier abord paraissait si sottement provinciale, produisait sur eux l'effet que le président en attendait.
De la fripouille parisienne, ces accusés, rien que ça !
En tout cas, Droche ne s'y trompa pas.
Voilà le sac à la malice qui s'ouvre, dit-il à Saint-Hélier.
Après 2 autres dépositions sur les antécédents de la Vaupelière, on arriva aux témoins d'Oissel et de Rouen. Le premier qui parut à la barre fut Sélanie, Mais bien que ce fût un Normand qui interrogea patiemment cette Normande, il n'en put rien tirer du tout. Elle répétait d'un air vide la question qu'il lui posait, cherchait avec un sourire niais ce qu'elle devait comprendre et dire, puis finalement accouchait d'un « tête bain » qui n'était ni une affirmation ni une négation. Un autre président se fût amusé de ce personnage comique et eût fait de l'esprit avec elle, mais il s'en garda bien. Ce n'était pas devant des paysans normands, comme il y en avait plusieurs dans le jury, qu'il convenait de se moquer d'un des côtés du paysan normand. Il ne lui adressa même pas la fameuse phrase « Allez vous asseoir », mais poliment, il lui dit qu'elle pouvait se retirer. Ce fut l'huissier, impatienté de ses hésitations, qui lui traduisit, au milieu des rires du public, l'invitation du président. « On vous dit d'aller vous asseoir. » « Merci ben, je suis pas fatigué. » Un pharmacien de la place cauchoise succéda à Sélanie. Quand les journaux illustrés avaient publié le portrait de la Vaupalière, il avait été frappé de la ressemblance qui existait entre ce portrait et un client inconnu qui, un soir, était venu lui demander un flacon de sulfonal en le questionnant sur les propriétés de ce médicament. Combien fallait-il de temps pour qu'il amenât le sommeil? Combien durait ce sommeil? Les clients qui achetaient du sulfonal étaient rares à cette époque, alors surtout qu'ils ne présentaient pas une ordonnance de médecin. Le pharmacien de la place cauchoise avait donc examiné celui-ci tout en répondant à ses questions. Et quand le portrait du notaire d'Oissel avait été publié, il l'avait reconnu pour l'acheteur du sulfonal. « Et maintenant, demanda le président, le reconnaissez-vous dans l'accusé ?»« Sans aucun doute, c'est bien lui. » « Contestez-vous cet achat de sulfonal ?» demanda le président. « Pourquoi le contesterais-je »« Je vous le demande. Le sulfonal n'est pas un poison. » En tout cas, cet hypnotique puissant plonge-t-il celui qui en a fait usage dans un sommeil profond, pendant lequel il n'a conscience ni de ce qui se dit, ni de ce qui se passe autour de lui, de telle sorte qu'on peut venir dans sa maison, qu'on peut s'y installer, y faire ce qu'on veut sans qu'il s'aperçoive de rien. L'effet produit est en quelque sorte celui d'une mort momentanée. Or, si celui qui administrait ce médicament mystérieux s'en trouve pour une cause quelconque empêchée, ne peut-il pas être amené fatalement à substituer la mort définitive à la mort momentanée, l'arsenic au sulfonal? Cela est à prouver. Et cela le sera. Conclut l'avocat général. Messieurs les jurés comprendront que je veuille attendre cette tentative de preuve pour y répondre. Au pharmacien de la place cauchoise succéda celui de la rue Grandpont, qui, en présence de son collègue d'Oissel, avait vendu à la Vaupalière un compte-gouttes et des gouttes de Baumet. Il raconta cette acquisition en insistant sur l'embarras de la Vaupalière, se voyant surpris par Turlure, et sur le temps qui s'était écoulé entre le moment où l'élève, en lui remettant le compte-gouttes, avait demandé ce qu'il voulait avec cela, et celui où la Vaupalière avait répondu en spécifiant des gouttes de Baumet. « Ce temps écoulé a été significatif ?» demanda le président. « Très significatif. Et pour vous, quelle a été cette signification ?» Que la question de mon élève a été une surprise et que la réponse relative aux gouttes de Baumet n'a été faite, après un moment de réflexion, que pour justifier l'achat du compte-gouttes. Alors, selon vous, l'accusé ne pensait pas à acheter des gouttes de Baumet en entrant chez vous? Il n'y a pensé que pour ne pas rester court devant mon collègue d'Oissel. Accusé, qu'avez-vous à répondre? Que c'est là une interprétation que je ne veux pas discuter. Alors, vous aviez réellement besoin de ces gouttes de Baumet et vous en avez fait usage? Bien que le président ne lui eût pas adressé la phrase banale qui traîne dans le répertoire des cours d'assises, « Accusé, vous êtes trop intelligent pour ne pas comprendre la gravité de ma question », la Vaupalière sentait dans quelle terrible situation elle le plaçait. La vérité était un aveu, la non-vérité, un danger d'être convaincu de mensonge. Il essaya de se jeter à côté. « Monsieur Turlure vous dira, répondit-il, qu'il m'a lui-même conseillé l'usage de ces gouttes. »« Quand vous a-t-il donné ce conseil? Avant ou après l'achat du compte-gouttes ?»« En revenant ensemble à Oissel. »«
c'est-à-dire après l'achat du compte-gouttes. Et vous avez pris de ces gouttes ?
Sans doute.
Pendant longtemps ?
Je ne peux pas préciser.
Un jour, un mois ?
Quelques jours.
Comme le président n'insistait pas, la Vaupallière espéra avoir doublé ce cap périlleux. Ce fut Fauchon que l'huissier introduisit.
Avant d'être le clerc de l'accusé, dit le président, vous avez été son camarade, vous habitiez le même hôtel, vous mangiez à la même table. Avez-vous remarqué qu'il usa de médicaments ?
Non.
Ainsi, avant son repas, a-t-il jamais pris des gouttes qu'il se versait avec un compte-gouttes ?
Je ne crois pas.
Rappelez vos souvenirs. La question est de la plus haute gravité.
Je ne l'ai jamais vu.
S'est-il quelquefois plaint ?
Non.
Vous veniez ensemble de l'étude à l'hôtel ?
Presque toujours.
Et avant de prendre place à table, entriez-vous dans vos chambres ?
Cela était rare. Nous allions nous laver les mains à une fontaine qui est placée dans le vestibule et nous nous mettions à table.
Maintenant, accusé, voulez-vous dire à messieurs les jurés le moment précis auquel vous buviez ces gouttes qui se prennent avant le repas ou tout au commencement du repas ?
Le matin, avant sortir.
À jeun ?
Sans doute.
Quand nous entendrons messieurs les médecins, nous leur demanderons si on n'a jamais pris ces gouttes dont l'amertume est insupportable de cette façon.
C'était la mienne. Je ne voulais pas, à table, avoir l'air de me droguer.
C'était dans les yeux de Médéric, comme dans un miroir, qu'Hortense suivait les impressions produites par les témoignages ou par la défense de la Vaupallière. Au regard qu'il lui lança, elle sentit que les dernières réponses de son mari venaient de le compromettre gravement. Mais elle n'eut pas le temps de rester sur cette pensée, la marche de l'affaire, qui s'enchaînait avec une rapidité pour elle vertigineuse, avait amené Boulnois à la barre et, pour la première fois, elle allait être mise en cause.